La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui avaient très longtemps attendu la joie de devenir parents. Il était une fois une magnifique petite fille qui était née alors que le soleil se levait. Il était une fois Aurore, promise au plus bel avenir. En ce jour de liesse qu'était son baptême, tout le royaume se réjouissait. Ses parents ne se lassaient pas de contempler leur nouveau-né. Ses trois marraines, les fées Flora, Pimprenelle et Pâquerette, s'apprêtaient à lui offrir les plus beaux des cadeaux. Même le souverain du royaume voisin était venu, avec son jeune fils Philippe, espérant en secret une union entre les deux palais dans quelques années. Mais la somptueuse fête fut gâchée par l'irruption de la sorcière maléfique. Annoncée par un coup de tonnerre, elle surgit sans avoir été invitée. C'était là, précisément, la raison de sa contrariété. « Pour vous apprendre à ne plus me mépriser, je vais faire à la princesse un don sorti des enfers. » Et, se tournant vers le berceau où gazouillait le bébé, qui venait de se voir offrir beauté inégalable et voix de rossignol par deux fées, Maléfique brandit son sceptre magique et clama « À l'aube de tes 16 ans, tu te piqueras le doigt à la pointe d'une quenouille et tu mourras !» Puis, la sorcière disparut dans un nuage de fumée, ne laissant derrière elle que les échos de son rire malfaisant et une assemblée consternée. Heureusement, la troisième marraine, la fée Pimprenelle, n'avait pas encore prononcé son vœu. Elle n'avait pas le pouvoir d'annuler le sort de Maléfique, mais elle put l'atténuer. « Tu ne mourras pas, belle Aurore. Tu sombreras dans un profond sommeil dont seul le baiser d'un prince charmant pourra te tirer. » Aussitôt, le roi ordonna de brûler tous les rouets du royaume pour empêcher la prophétie de se réaliser. Les fées, qui redoutaient les pouvoirs de Maléfique, proposèrent d'emmener Aurore loin du château pour la mettre à l'abri. « Nous vous la ramènerons saine et sauve lorsqu'elle aura 16 ans et qu'il ne pourra plus rien lui arriver », promirent-elles au roi et à la reine, désespérées à l'idée de se séparer de leur enfant. Et c'est ainsi que, la nuit même, les fées quittèrent discrètement le château pour s'enfoncer au cœur de la forêt. Flora portait avec précaution le plus précieux des trésors. Les années passèrent, et Maléfique, informé de la disparition de la princesse, avait envoyé son sinistre corbeau à sa recherche. La jeune fille, que les trois fées avaient rebaptisée Rose, avait bien changé en 15 années. Pour ne pas se faire repérer, les fées avaient résolu de ne plus avoir recours à leur pouvoir magique. Et c'est ainsi que la petite princesse avait grandi simplement, mais entourée d'amour, en plein cœur de la nature. En cette radieuse matinée de printemps, elle se sentait pleine d'espoir et d'allant. Était-ce parce que, le jour de ses 16 ans, elle se doutait que ses marraines lui préparaient une surprise? Ou parce que, à l'orée de sa vie d'adulte, elle frémissait à l'idée de rencontrer le grand amour? Absorbée par les confidences qu'elle faisait à ses amis les animaux, elle n'entendit pas arriver un beau cavalier. Lorsque les jeunes gens échangèrent leur premier regard, le même frisson les traversa. Dès lors, un désir commun les anima, celui de demeurer toujours ensemble pour s'aimer. Sans un mot, le jeune homme tendit la main et l'invita à valser. Ils avaient beau n'être accompagnés que par les pépiments des oiseaux, il leur sembla à cet instant que la plus entraînante des valses retentissait, tant leur cœur battait la chamade. Lorsque vint le moment de se séparer, le jeune homme demanda à l'élu de son cœur « Quand pourrais-je vous revoir ? Venez ce soir à la maison du bûcheron, répondit la princesse avant de retourner chez elle. Les fées n'avaient pas chômé en l'absence de leur protégée. Robe de soirée, gâteau d'anniversaire, elles voulaient que tout soit parfait. Mais on ne s'improvise pas couturière ou pâtissière quand on n'a pas exercé ces métiers. Le résultat les déçut tant que, d'un commun accord, elles résolurent d'avoir exceptionnellement recours à la magie pour faire plaisir à la princesse. D'un coup de baguette, Pimprenelle désigna la robe, puis le chaudron, pour que tout soit prêt avant le retour de Rose. Mais elle y mit tant d'énergie qu'un rayon magique sortit par la cheminée et vint surprendre le corbeau de Maléfique. Dans un croassement lugubre, le volatile battit des ailes et se dirigea vers le sombre palais de la sorcière pour la prévenir. Lorsqu'Aurore découvrit ses cadeaux, la princesse s'écria « C'est le plus beau jour de ma vie !» Et elle raconta à ses marraines sa rencontre avec le beau cavalier et leur prochain rendez-vous. Mais elle ignorait que la soirée de ses 16 ans était depuis longtemps réservée pour retourner au palais de ses parents. Lorsque les fées lui eurent révélé sa véritable identité et le sort dont elles avaient voulu la protéger, la belle Aurore fondit en larmes, désespérée à l'idée de ne jamais revoir son cher cavalier. Arrivée au château, elle demanda à se remettre de ses émotions avant de rencontrer ses parents. Les fées la laissèrent donc seule un moment et Maléfique en profita pour agir. Elle hypnotisa la princesse et la conduisit au sommet d'une tour abandonnée où l'attendait un rouet. Aurore s'en approcha, comme aimantée, étendit la main vers la quenouille et se piqua le doigt. Elle s'effondra sur le sol, inanimée. Maléfique avait gagné. Mais les trois fées refusèrent de se résigner. Très vite, elles jetèrent un sort sur le château afin que tous ses occupants s'endorment eux aussi et que le roi et la reine soient préservés d'un chagrin mortel. Ensuite, elles se mirent en quête d'un prince charmant capable d'éveiller la princesse. Au même instant, le beau jeune homme de la forêt, qui n'était autre que le prince Philippe, attendait sa bien-aimée dans la maison du bûcheron. Il n'eut pas le temps de réagir lorsque les sinistres créatures de Maléfique firent irruption pour le ligoter et le conduire dans un cachot au fin fond du château de la reine des forces du mal. Car la sorcière avait tout prévu. Non seulement Aurore s'était piqué le doigt à une quenouille, mais en plus, le seul prince capable de rompre le sort était à présent enchaîné. Heureusement, les fées ne tardèrent pas à trouver le prince grâce à leur pouvoir magique. « Prenez cette épée de vérité et ce bouclier, » dirent-elles au jeune homme en le délivrant. « Et partez vite. Maléfique va tout faire pour vous empêcher d'arriver au palais d'Aurore. » En effet, la reine du mal ne tarda pas à constater la fuite de son prisonnier. Ivre de colère, elle fit s'élever des milliers de ronces entrelacées autour du château de la Belle au bois dormant pour en interdire l'accès. Mais le prince, enhardi par l'amour, fendit de son épée les branches épineuses et n'hésita pas à s'y engouffrer. Il n'était cependant pas au bout de ses peines. Très vite, il vit surgir devant lui un immense dragon. C'était Maléfique, qui, ayant décidé d'en finir, s'était transformé en un monstre terrifiant. Échappant de justesse aux dents tranchantes de l'animal, le cavalier sauta de sa monture et escalada une corniche pour se placer à hauteur du dragon. Face à lui, les naseaux du monstre frémirent de rage et lancèrent un long jet de flammes semblant provenir des enfers. Le prince eut tout juste le temps de se cacher derrière un gros rocher. Comment pouvait-il vaincre un adversaire aussi puissant ? À cet instant, les fées l'entourèrent et lui apportèrent leur aide. « Que cette épée de vérité fasse justice !» clamèrent-elles d'une seule voix. D'un geste déterminé, le prince lança son arme droit dans le cœur du monstre qui bascula dans le vide en poussant un cri déchirant. Lorsqu'il s'écrasa au sol, il disparut pour laisser place à la seule cape noire de Maléfique. Instantanément, les ronces s'effacèrent. Les forces du mal étaient vaincues. Sans plus tarder, le jeune homme se précipita vers le château et gravit les escaliers 4 à 4 pour rejoindre sa bien-aimée. La magnifique demoiselle était allongée dans un somptueux lit. De longues boucles dorées encadraient son délicat visage. Le prince se pencha vers elle et déposa délicatement un baiser sur ses lèvres pâles. Puis, se redressant, il contempla ses joues reprendre un teint de rose et ses paupières s'ouvrir, révélant un regard bleu azur empreint de bonté et d'amour. Au même moment, le château endormi reprit vie. Gardes, marmitons et valets se remirent au travail. Le roi et la reine, qui attendaient leur fille dans la salle du trône, se levèrent pour la guetter. Et lorsqu'ils la virent descendre le grand escalier, au bras de son prince charmant, le bonheur les envahit, balayant les années de tristesse et d'attente. Après de tendres retrouvailles, la fête commença. Longtemps dans la nuit résonnèrent rires, chants et musique, tandis que, les yeux dans les yeux, Aurore et Philippe se promettaient de s'aimer à jamais.